France Inter.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette dernière de Questions politiques, l'émission politique du dimanche sur France Inter, diffusée sur France Info, la télé, et en partenariat avec le journal Le Monde. Les enjeux sont colossaux, la semaine sera capitale. Dans quelques jours, dans quelques heures, la France, comme l'Europe, connaîtra le montant des droits de douane, que les États-Unis lui appliqueront. En réalité, c'est le monde entier qui attend de savoir à quelle sauce il sera mangé. 6 mois après son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump n'a peut-être jamais été aussi puissant qu'il ne l'est aujourd'hui. En tout cas, le montant de ces droits de douane va tomber en pleine équation budgétaire compliquée. François Bayrou n'a toujours rien révélé de ses intentions. Impossible de savoir où et comment est-ce qu'il compte trouver 40 milliards d'euros d'économies. Il lui reste 9 jours pour y parvenir, 9 jours seulement. Dans un gouvernement de plus en plus dissonant, chacun joue sa partition et peaufine ses ambitions. On en parle avec notre invité, le ministre en charge du commerce extérieur, Laurent Saint-Martin, dans Questions politiques ce dimanche, en direct et jusqu'à 13h.
Questions politiques. Karine Bécard sur France Inter.
Bonjour Laurent Saint-Martin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce dimanche.
Merci à vous.
J'ai à mes côtés, pour vous interviewer, Françoise Fressoz du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Et Alix Bouillaguet de France Télévisions. Bonjour également.
Bonjour Karine, bonjour à tous.
Je les ai aimés durant toute l'année, vos images de la semaine, avec vos explications, avec vos commentaires pour décrypter ce qui s'est passé dans l'actualité. Dernier tour de table donc. On commence avec vous, Laurent Saint-Martin. Qu'est-ce qui a retenu votre attention en particulier cette semaine ?
C'est cette image de la baignade dans la Seine, à double titre. D'abord parce que ça démontre qu'on peut poursuivre des objectifs politiques à très long terme. Je rappelle que c'était un souhait cher à Jacques Chirac notamment. Ça a pris du temps. Et c'est aussi un héritage de nos Jeux Olympiques. Et ça, on doit en être fiers. Vous savez, je suis aussi en charge de l'attractivité de notre pays. Et les Jeux Olympiques ont été un moment absolument formidable de mise en lumière, de mise en valeur de notre pays. Et on avait voulu ensemble, collectivement, l'État, les collectivités, la mairie, la région, faire en sorte qu'il y aurait un après dont les Parisiens, dont les Franciliens, mais au-delà aussi, puissent bénéficier. Et je crois que c'est une image positive, optimiste de ce que la France sait faire de mieux, y compris pour ses propres habitants après de si beaux événements.
Donc vous ne dites pas que c'est la gauche qui est en train de vraiment transformer la capitale ?
Je dis que,
si je vous entends bien.
Je dis que c'est un bel héritage collectif après des Jeux Olympiques qui ont été un succès unanimement reconnu partout dans le monde. Mmh. Et c'est bien qu'après des beaux événements internationaux, ce soit les habitants, et c'est pas que pour Paris, demander aux habitants de Seine-Saint-Denis notamment toutes les infrastructures dont ils bénéficient aujourd'hui, ça c'est vraiment construire dans la durée.
Allez, autre image, autre moment politique cette semaine avec vous Françoise.
Alors désolée de casser le rêve, là on est dans la tambouille politique, et l'image que j'ai retenue, c'est celle de François Bayrou, entouré de deux de ses ministres qui ont fait un peu le buzz cette semaine. Bruno Retailleau, qui fait une attaque en règle contre la politique énergétique, en
ministre
disant qu'il faut revoir absolument les subventions à l'éolien, au solaire, ça ne va pas du tout. Et la ministre de l'Environnement, qui riposte très très fortement en jugeant absolument irresponsable, quand on prétend être un homme d'État, de tenir de tels discours. C'est du populisme le plus basique, dit-elle. Et on voit intervenir à ce moment-là Emmanuel Macron qui dit « un Premier ministre doit faire la paix au sein de son gouvernement », c'est-à-dire il doit être maître de son gouvernement, et chaque ministre doit être dans son couloir. Vous savez ce que ça, à quoi ça me fait penser ?
Allez-y.
Ça me fait penser à Sarkozy, quand il challengeait Jacques Chirac à la fin du dernier mandat de Jacques Chirac, et que Jacques Chirac lui disait « c'est moi qui exécute, c'est moi qui décide, et il exécute ». Et en fait, non, Nicolas Sarkozy n'en faisait qu'à sa tête. Sauf que là, je trouve que c'est plus grave, parce que au fond, le jeu de Retailleau, c'est d'aller quand même sur les thèses du Rassemblement national. Il y a presque un alignement des planètes entre le Rassemblement national et la droite aujourd'hui sur l'immigration, sur l'écologie, en plein réchauffement climatique. Et donc, au fond, quand il fait ça, il essaye de dire à la droite, on est de retour, mais est-ce qu'il ne sert pas de carburant à Jordan Bardella ? Ça, c'est la grande question d'aujourd'hui. On sent une tectonique des plaques qui va vraiment, et une sorte de barrage qui est en train de sauter.
Laurent Saint-Martin, est-ce que c'est le bazar au gouvernement ? Première question. Et la deuxième, est-ce que Françoise Fressoz fait la bonne analyse selon vous ? Est-ce qu'effectivement, on a une droite LR qui emprunte de plus en plus le chemin d'extrême droite ?
D'abord, je trouve que Bruno Retailleau est un meilleur ministre de l'Intérieur qu'il serait un ministre de l'Environnement. Je pense qu'il fait une double erreur, une erreur de fond, une erreur d'appréciation, et effectivement, comme vous le dites, une erreur qui est souvent répétée par certains partis politiques, y compris le Rassemblement National depuis longtemps, à savoir que les énergies renouvelables ne doivent pas faire partie de notre mix énergétique. C'est une erreur profonde. Nous l'avons démontré avec tous les investissements qui ont été faits ces dernières années. Et si la France a réussi à baisser de près de 20% ses émissions de gaz à effet de serre depuis 2017, c'est aussi grâce à ces investissements-là. Donc c'est une erreur de fond. Sur la forme, je crois que là...
C'est le bordel ou pas ?
Il faut être assez simple dans l'analyse. Quand on est ministre, on est solidaire de la politique du gouvernement. Point. Que ce soit Bruno Retailleau, patron du Parti des Républicains qui s'exprime, peut exister. Ça peut être une position. Mais là, il est aussi ministre de l'Intérieur.
Donc il ne peut pas rester.
Écoutez,
en tout cas,
moi je pars d'un principe assez simple. Quand on prend des positions sur des politiques qui ne sont pas celles de son portefeuille ministériel et qu'elles sont contraires à ce qu'on appelle un arbitrage, c'est-à-dire que c'est le Premier ministre qui décide de la politique et de l'orientation du gouvernement, effectivement, ça n'a pas de sens, ça ne peut pas exister.
Donc François Bayrou doit le virer.
Et donc on considérera, j'espère, qu'on pourra... Enfin, vous savez, moi je suis engagé dans ce gouvernement pour une raison très simple. C'est donner du sens à ce que l'on fait et faire avancer le pays. Comment vous voulez que les Français comprennent quelle est la politique du gouvernement ? Si un ministre va prendre des positions contraires à un autre ministre, sachant que ce n'est pas sa compétence.
Mais ça, c'est François Bayrou qui laisse ce qu'il appelle cette polyphonie.
Est-ce qu'il doit être plus ferme, François Bayrou ?
Eh bien, dans ce cas-là, il faut peut-être remettre de la discipline collective, effectivement, pour s'assurer que chacun prenne des positions d'abord sur ce qui le concerne. Les Français, ils ont besoin de lisibilité, ils ont besoin de clarté. Ils ont de l'information matin, midi et soir sur des sujets internationaux, domestiques, qu'on n'aille pas non plus mettre de la cacophonie dans les prises de position au sein du gouvernement. Donc, un gouvernement, ça fonctionne de la façon suivante. Il peut y avoir des opinions différentes, mais il y a des orientations qui sont décidées par le chef du gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre. En revanche, je termine juste là-dessus, pour dire qu'il ne faut pas non plus, à l'inverse, toujours s'offusquer des divergences d'opinion entre des membres d'un gouvernement qui est un gouvernement de coalition. LR, c'est pas Renaissance. Renaissance, c'est pas Horizon. Horizon, c'est pas le Modem. Il y a une coalition qui est faite avec des partis issus de l'ancienne majorité présidentielle auquel s'est ajouté LR, les Républicains.
Oui, mais quand les Républicains, ce qu'on disait tout à l'heure...
Acceptons aussi juste une divergence d'opinion qui n'est pas un gros mot. En revanche, on accepte une politique gouvernementale qui est décidée, qui est arbitrée et qui engage tous les ministres.
Même quand votre allié, donc LR, finit par avoir les mêmes idées que le Rassemblement National, mais est-ce que dans ce cas-là, il peut rester objectivement l'allié du Bloc central ?
Mais ce n'est pas à moi de décider s'il doit rester ou pas rester.
Est-ce que ça vous gêne ?
Oui, bien sûr que ça me gêne. Bien sûr, je viens de vous le dire. Ça me gêne surtout que le fond, pour moi, est gravement erroné. Je pense que c'est une très mauvaise prise de position sur le fond. On ferait une erreur considérable à reculer sur la question des énergies renouvelables.
Et l'ancien président Nicolas Sarkozy, quand il reçoit, parce que c'est un peu la même chose, quand il reçoit cette semaine Jordan Bardella dans son bureau, vous êtes gêné ou pas ?
Pas de commentaire à faire sur qui reçoit l'ancien président Sarkozy.
Mais c'est une faute politique ou pas ?
Ce n'est ni ma famille politique, ni ma position de le commenter. Donc je n'ai pas à m'immiscer dans ces rendez-vous-là.
Allez, on termine les images avec vous, Alix Bouyaguet. La ville de Kiev, la capitale ukrainienne, sévèrement visée cette semaine par les frappes russes.
Oui, sur cette image, on peut voir effectivement le ciel de Kiev s'embraser. C'était dans la nuit de jeudi. L'attaque de drones russes la plus massive depuis 2022, un bombardement sans précédent. Cette semaine, les Américains ont annoncé faire une pause dans la livraison de systèmes anti-aériens cruciaux pour faire face à la pluie de missiles et de drones lancés quotidiennement par la Russie. Une pause au moment même où les Russes gagnent chaque jour du terrain. Si officiellement les États-Unis justifient cette décision pour, disent-ils, donner la priorité aux intérêts américains, dans les faits, ça revient quand même à dire à Volodymyr Zelensky, eh bien arrête de chipoter, mets-toi autour de la table, accepte la paix aux conditions de la Russie et ça ira bien pour toi. Mais derrière cette réalité, c'est l'atonie de l'Europe qui frappe. C'est son incapacité à prendre le relais des Américains, son incapacité à livrer des armes dans les temps, alors que l'avenir de l'Europe passe par l'avenir de l'Ukraine.
Un commentaire.
Et l'avenir de l'Ukraine passe par l'Europe. Et l'avenir de l'Ukraine passe par les choix et les décisions ukrainiennes. Et c'est ça qu'il faut réussir, évidemment, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois.
Mais on le voit moins, en ce moment. On a l'impression que l'Europe est moins présente et moins derrière. C'est ce que dit Alix Bouyaguet derrière
l'Ukraine. Non, je ne partage pas ce constat-là. Et nous serons à Rome dès la semaine prochaine, justement aussi, pour discuter d'enjeux très structurants, qui est le soutien effectif aujourd'hui, et puis dans la reconstruction demain de l'Ukraine. La position européenne, et notamment celle de la France, n'a pas varié en la matière. Il ne peut y avoir de paix durable, pérenne, sans respect des intérêts ukrainiens. Ça n'existera jamais.
Et on a besoin des... Mais en revanche, de manière très concrète, les livraisons d'armes, on ne voit pas une accélération massive se dessiner.
Non, mais
donc,
l'Europe...
que c'est inquiétant.
Non, mais l'Europe, je ne suis pas d'accord. L'Europe reste en soutien extrêmement actif à l'Ukraine en ce moment-là. Elle a besoin aussi des États-Unis pour une résolution du conflit. C'est évident.
Mais là, on a...
Et on ne pourra pas, et on a toujours dit cela, on ne pourra pas faire fi des intérêts ukrainiens, qui, je le rappelle, et c'est parfois peut-être ça, pour le coup, c'est parfois un petit peu passé sous silence, c'est le peuple ukrainien qui a été agressé. Pardon de le rappeler toujours, c'est le peuple ukrainien qui a été agressé. Ce n'est pas un conflit où nous pouvons regarder les deux belligérants de façon équidistante. Ce n'est pas vrai. C'est la Russie qui a déclaré la guerre à l'Ukraine, et la France soutient l'Ukraine. Pardon ?
Et Emmanuel Macron.
Ah, mais ça, c'est autre chose.
Vladimir Poutine.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dialoguer et que la diplomatie ne peut pas être la source de la résolution du conflit. Je rappelle juste que ni la position de la France, ni la position de l'Union européenne en soutien total, inconditionnel à l'Ukraine a varié d'un centimètre. C'est la même position, mais oui, j'assume de dire que nous avons besoin des États-Unis dans cette équation pour réussir, mais nous avons besoin à la fois de mettre l'Europe autour de la table et de la conserver, et d'entendre les intérêts ukrainiens dans cette résolution de conflit. Sinon, cela n'existera pas de façon pérenne. Il y aura peut-être un cessez-le-feu, mais cela ne résoudra pas le conflit à long terme.
Une question très concrète pour finir sur ce dossier. Berlin a décidé d'acheter des armes américaines pour les envoyer en Ukraine. Est-ce que la France peut s'engager sur la même idée, acheter des armes américaines si on en manque,
il y aura
des patriotes en particulier, pour effectivement les envoyer en Ukraine.
Sur tous les sujets de livraison d'armes, la France s'exprime régulièrement sur ce qui va être fait par la voix de notre ministre des Armées, Sébastien Lecornu, ou du président de la République, et nous l'avons toujours fait, et nous continuerons à le faire exactement de la même manière. Je pense que ce qu'il faut, en revanche, c'est se demander comment est-ce que l'Europe peut accélérer dans ses dépenses militaires, comment l'Europe peut continuer à se renforcer sans être systématiquement sous le parapluie américain, pour que demain, et ça rejoint aussi votre question, le poids de l'Europe dans ces questions-là puisse aussi être plus indépendant. Ça, c'est une question structurellement, après la guerre en Ukraine, quand il y aura la paix, qui devra continuer à être posée.
Avez-vous signé des lettres destinées à vos partenaires commerciaux ?
J'en ai signé. J'ai signé quelques lettres, elles partiront lundi. Probablement 12. 12 différentes, avec des montants différents, des droits de douane différents et des formulations un peu différentes.
Quels pays recevront ces lettres lundi ?
Ce sera annoncé, je dois l'annoncer lundi.
Laurent Saint-Martin, question toute simple. Est-ce que l'Union européenne va faire partie des pays ou des groupes de pays qui pourraient recevoir une de ces lettres ?
L'Union européenne est en train de continuer à négocier avec Washington pour faire en sorte que le meilleur compromis possible puisse être trouvé, évidemment dans la défense de nos propres intérêts. Et la France y participe activement aux côtés de la Commission et soutient surtout le travail de la Commission européenne.
On a jusqu'à mercredi pour le faire.
Vous voyez bien une forme de mise en tension de la part du président américain, que ces lettres sont aussi une forme de pression pour aboutir sur des négociations. Et là-dessus, je ne lui donne pas tort, nous avons tous intérêt à ce que les négociations aboutissent rapidement maintenant, parce que cela crée beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'attentisme dans le climat d'investissement pour nos entreprises, et cela est très mauvais de ne pas savoir, quand on exporte sur le marché américain, quels seront les droits de douane définitifs. Donc nous sommes, comme on dit en américain, justement dans le money time. Et donc on a besoin, aujourd'hui, d'aboutir à une résolution la plus rapide possible, et surtout qu'ils comprennent les intérêts des deux parties. Il y a quand même là-dessus une question qui est quand même différente des autres pays, si je peux me permettre. Les États-Unis ne peuvent pas considérer l'Union européenne comme un partenaire comme les autres. On ne peut pas à la fois parler de la résolution de la guerre en Ukraine, des différents cessez-le-feu, de demander, et je lui donne raison au président Trump là-dessus, à ce que l'Europe puisse mieux s'armer, être plus indépendante des États-Unis et en même temps faire une guerre commerciale.
En fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on peut pas, nous, l'Europe ne pourrait pas fournir le gigantesque effort d'armement si on a une guerre commerciale qui nous plombe la croissance.
J'essaie de mettre en cohérence, François Fressoz, les propos du président Trump lui-même.
Donald Trump ou pas ? Mais est-ce que Trump
est irrationnel ? J'essaie de mettre en cohérence ses propres propos. Moi, je suis d'accord avec lui quand on dit que l'Europe doit se réveiller. L'Europe doit être plus indépendante. Je suis d'accord avec ça. Et on a une fenêtre d'opportunité avec ce second mandat de Donald Trump pour le faire. Donc moi, je vois le verre à moitié plein là-dessus. En revanche, Si derrière ça veut dire affaiblir nos exportations, réduire la valeur de nos entreprises, être en incapacité à être des partenaires commerciaux durables, effectivement, il y a une contradiction évidente. Il y a une contradiction évidente. Et donc, il reste quelques jours, quelques heures pour que la Commission européenne parvienne à un accord. Est-ce que cet accord sera forcément du zéro pour zéro, comme on dit techniquement, c'est-à-dire abaisser tous les droits de douane? Probablement pas. Il va falloir que...
Alors, attendez, avant d'arriver au zéro pour zéro, il faut quand même qu'on explique un peu aux auditeurs comment ça se présente exactement. Ils en entendent parler depuis un petit moment. Droits de douane, mais voilà, normalement, il y a un montant de droits de douane qui va être décidé. Est-ce que ça peut être toujours les fameux 10% dont on entend parler? Est-ce que ça peut être au-delà? Est-ce que ça peut être en dessous? Et puis ensuite, effectivement, expliquez-nous ce que peuvent être les exemptions et le fameux zéro pour zéro.
Alors d'abord, pour nos auditeurs, il faut bien comprendre où on en est aujourd'hui dans la période de suspension. Aujourd'hui, sont à l'œuvre 25% d'augmentation de droits de douane sur l'automobile, 50% sur l'acier et l'aluminium et 10% sur à peu près 70% des autres exportations.
Et ça, c'est pour toute l'Union européenne.
Et ça, c'est pour toute l'Union européenne. Mmh. Ça, c'est ce qui existe aujourd'hui. Donc déjà, il est erroné de croire que nous sommes dans une période où il ne se passe rien. Nous sommes impactés aujourd'hui. La question est de savoir quelle est la fin de la négociation. 10% est aujourd'hui ce que les États-Unis veulent globalement imposer à l'Union européenne.
C'est acceptable ou pas?
Pour que cela puisse être acceptable, il faut que ce soit symétrique et qu'il y ait... Donc aussi des baisses de droits de douane sur certains secteurs prioritaires pour l'Union européenne. Je pense à l'aéronautique, je pense aux vins spiritueux, je pense à nos cosmétiques, certains produits chimiques, ce qui fait finalement la force de l'Europe à l'exportation. Et là aussi où l'Union européenne a besoin des États-Unis et réciproquement, là où les États-Unis ont besoin de l'Union européenne. Ce qu'on a peut-être juste un peu trop oublié.
Juste là, vous avez bon espoir sur les produits que vous nous citez, qui est ce fameux 0 pour 0 droit de douane.
En tout cas, c'est tout à fait possible et c'est dans les négociations en cours. Donc, ce n'est pas quelque chose de fantasmé, c'est quelque chose qui est tout à fait acceptable. Et pour l'Union européenne, pour que cela se termine positivement, en comprenant évidemment la partie américaine. Il serait illusoire de croire que cela sera unilatéral dans un sens comme dans l'autre. Il faut comprendre les besoins et les intérêts de chaque partie pour qu'à la fin de cette période-là, et c'est le plus important encore une fois pour nos entreprises, vous savez, moi je suis un carrefour entre l'économique et le politique dans mon ministère, nos entreprises, elles sont inquiètes. Ce qu'il faut, c'est qu'elles comprennent que tout ça est derrière nous et qu'on puisse avoir un champ de vision et de visibilité sur ce qu'est le marché américain demain pour les entreprises européennes. Donc, nous, on va tout faire pour qu'il puisse y avoir un accord le plus intelligent possible et, comme on dit en termes techniques en politique commerciale, qu'on aboutisse à un agenda positif, c'est-à-dire quelque chose qui ne
soit
pas trop pénalisant.
Allez, Françoise, parce qu'elle trépigne.
Imaginez qu'il n'y ait pas d'accord cadre à 10%, que ce soit beaucoup plus haut. Est-ce que concrètement, l'Union européenne et la France ont des moyens de rétorsion contre les États-Unis? Qu'est-ce que vous pouvez brandir?
Oui, mais... Permettez-moi, Françoise Fressoz, et c'est pas pour botter en touche que je dis ça, de faire les choses dans l'ordre.
On n'est pas encore dans ça.
On n'y est pas. Et on l'a préparé, on l'a dit pendant des mois, l'Union européenne a un arsenal de contre-mesures qui existent, soit pour les biens, soit pour les services. On en a déjà parlé à multiples reprises, mais si, moi je brandis l'arme de la rétorsion avant de donner la chance à la négociation, est-ce que je suis cohérent moi-même avec mon agenda positif? Moi, je veux... C'est quoi mon objectif comme ministre du Commerce extérieur? C'est que nos entreprises ne soient pas pénalisées. C'est que nos entreprises puissent continuer à exporter sur le marché américain. C'est continuer inlassablement à expliquer que les États-Unis ont plus à perdre qu'à gagner avec ces droits de douane. Ce n'est pas fini, la discussion. Il y a encore un chemin de conviction là-dessus à mener. Et en fonction... C'est pour ça que je vous réponds dans l'ordre. En fonction du résultat de la négociation, nous aurons, avec mes collègues du commerce européen, un conseil le 14 juillet sur lequel nous verrons la position à adopter. Y aura-t-il des mesures de riposte ou non? Ça ne peut se faire qu'en fonction du résultat de la négociation.
Parce que ça fait aussi partie d'une négociation. Il y aurait une liste de contre-tarifs ciblés, un montant de 95 milliards qui inclurait des secteurs comme les vins, les avions, les produits agricoles. Ça, vous dites, oui, ça peut être une mesure de rétorsion.
On
est prêt.
Je dis, nous avons un arsenal dissuasif, parce que nous pouvons effectivement l'actionner. Le faut-il? Je ne le crois pas. D'abord, pour une raison simple, c'est que ça créerait une forme d'escalade, qui serait encore une fois négative pour nos propres industries. Pardon d'être très concentré sur nos propres entreprises, mais le président américain, lui, ne réfléchit que America First. Permettez-moi d'avoir aussi un réflexe de protection de nos entreprises et de nos industries européennes et françaises. Qu'est-ce que vous faites si vous pénalisez, par exemple, le bourbon américain en riposte, comme ça avait été fait lors du premier mandat de Donald Trump? Eh bien, vous exposez nos propres vignerons, nos propres entreprises de vins et spiritueux à avoir encore plus de droits de douane en réponse. Ça s'appelle l'escalade de la guerre commerciale. Il faut l'éviter.
Mais est-ce que l'Union européenne est d'accord ?
Et donc on a quelques jours pour juste continuer à avoir cette discussion de baisse des tarifs commerciaux. Et ça ne s'arrête pas qu'aux États-Unis. Je comprends vos questions parce qu'on est, encore une fois, dans un moment extrêmement resserré de négociations. Mais il y a tout le reste du monde aussi qui attend les produits français et européens. Et moi, je reviens par exemple d'Amérique latine. Je pense qu'on a beaucoup à faire avec d'autres zones du monde, en Asie du Sud-Est, dans les pays du Golfe, sur lesquels on peut avoir des accords de commerce qui nous permettront d'aller plus loin, justement, dans les baisses de droits de douane.
Ça nous mène, par exemple, au traité de libre-échange avec le Mercosur. Oui. La France freinait des cas de fer. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Est-ce que vous dites, bah, vu le contexte, il vaudrait peut-être mieux signer, même si les produits agricoles, ce n'est pas vraiment bon pour nous ?
Alors, on n'a pas fini sur les droits de douane, on y reviendra, mais effectivement, question Mercosur.
Alors, la France est opposée aujourd'hui au texte qui a été conclu à Montevideo entre la Commission européenne et le Mercosur pour une raison très simple, c'est qu'elle n'apporte aucune protection à nos filières agricoles. Et nous avons dit qu'un bon accord de libre-échange est un accord qui sait mettre des mesures de freinage si les filières venaient à être déséquilibrées.
Alors, qu'est-ce qui va se passer ?
Alors, soit l'accord ne bouge pas, et dans ce cas-là...
C'est fini ou pas ? C'est fini ou pas, si ça bouge pas ?
Nous resterons fermement opposés et nous irons chercher avec d'autres partenaires européens une minorité de blocage.
Mais vous l'avez pas, là.
Parce que la minorité de blocage.
Là, vous l'avez pas.
Ça donc, fait... en fait, on attendez. Vous ne l'avez pas, la minorité de blocage.
Je vous explique dans l'ordre des choses à nouveau que s'il y avait un refus d'aller discuter pour modifier justement cet accord-là, la position de la France, c'est votre question, restera la même, tout faire pour aller chercher une minorité de blocage. Ce que j'ai dit, moi, au président argentin, aux autorités brésiliennes lors de mon déplacement, c'est qu'avec le président de la République, s'il y avait une intelligence collective permettant d'apporter ce qu'on appelle un protocole additionnel, c'est-à-dire des clauses de sauvegarde assurant à nos filières, notamment bovines, mais agricoles en général, des mesures de freinage permettant de ne pas déstabiliser, de ne pas déséquilibrer justement nos entreprises, alors nous pourrions effectivement avancer de façon plus consensuelle sur l'intérêt d'avoir un accord de libre-échange. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, de façon très binaire, pardon...
Non, mais là, vous revenez du Brésil, donc il s'est dit des choses...
C'est ce que je vous dis. Est-ce que la position de l'Europe, si elle venait à faire évoluer par un protocole additionnel avec les pays du Mercosur, ce texte-là, aurait davantage de considération de la part de la France ? La réponse est oui.
Mais vous les avez sentis dans cet esprit-là ou pas pendant deux jours puisque vous y étiez ?
Oui, la réponse est oui. Mais maintenant, la balle est dans le camp de la Commission européenne qui doit engager, c'est sa compétence en termes de politique commerciale, des discussions avec les pays du Mercosur.
Alors, je voudrais qu'on revienne sur les droits de douane. On est carrément re-rentré, enfin, vous me direz, vous êtes d'accord, dans un monde de relations commerciales agressives avec les États-Unis, avec la Chine aussi, qui vient d'imposer des droits de douane aux vignerons français du cognac. Les autorités françaises ont estimé malgré tout qu'il s'agissait d'un très bon deal, celui qu'on a trouvé là ces derniers jours. Quel est le montant de ces droits de douane qui ont été trouvés et qui font que c'est un bon deal ou pas ?
Alors, les montants dépendent des différentes maisons de cognac et d'armagnac, faut-il le rappeler, les deux sont impactés, ce qu'on appelle le brandy en politique commerciale. Pourquoi est-ce que nous considérons que c'est un bon deal ? D'abord parce que l'accès au marché chinois reste possible avec ces conditions-là pour nos entreprises de cognac et d'armagnac.
Pourquoi ils sont cachés, les montants de ces droits de douane ?
Parce qu'il s'agit d'une négociation entre la filière et les autorités chinoises, que je n'ai pas à divulguer. Et ce que je peux vous dire, et le Bureau National Interprofessionnel du Cognac l'a exprimé de façon très claire, c'est que nous avons évité le pire. Et nous l'avons fait notamment par... un exercice de diplomatie économique pendant 6 mois du président de la République avec la visite de Jean-Noël Barrot en Chine. Moi-même, j'ai reçu le ministre du Commerce chinois au cours du mois de juin. Nous avons discuté, nous avons négocié, expliquant que nous ne pouvions avoir une diplomatie apaisée et constructive entre la France et la Chine s'il y avait une telle agressivité vis-à-vis d'un produit aussi fort pour nos territoires et nos terroirs qu'est le cognac et l'armagnac.
Donc c'est pas 32%.
Ça a été entendu.
C'est beaucoup moins.
C'est moins. Et c'est une négociation qu'on appelle l'engagement de prix à l'importation que la filière cognac et armagnac a pris avec les autorités chinoises. Il faudra maintenant, parce que je reste toujours très vigilant depuis plusieurs mois sur tous ces sujets de négociations commerciales, s'assurer de l'effectivité, s'assurer que nos produits reviennent bien, notamment dans les duty-free, vous savez, aux aéroports dont ils avaient été totalement exclus et ce qui avait fortement pénalisé. Les cautions ils avaient dû faire des dépôts, en fait, pendant plusieurs mois, vont être rendus. On parle de 80 millions d'euros, donc c'est important pour la trésorerie de ces PME. C'est souvent des PME, hein, à Cognac. Et donc, oui, il y a du positif dans la séquence. Ce que ça veut dire, c'est que quand on négocie, quand on fait de la diplomatie économique, ça marche. Est-ce que pour autant, il ne faut pas rester sur ses gardes? Bien sûr que si. Et donc, nous, on continuera à soutenir notre filière Cognac-Armagnac jusqu'au dernier moment, en s'assurant effectivement que l'accès au marché reste possible, parce que le marché chinois est un marché prioritaire pour eux.
Mais en échange, nous, on a accepté quoi? En échange de ces droits
filière,
de douane
plus... La filière a accepté des engagements de prix, des augmentations, effectivement, qui sont importants, mais qui n'empêchent pas l'accès au marché, comme cela pouvait être le cas avec cette menace des droits de douane. Mais ce n'est pas à moi, encore une fois, de donner les chiffres de la négociation de la filière.
L'Union européenne et la France complètement sur la défensive, notamment par rapport au marché chinois, où on se dit il faut quand même faire attention aux importations, oui. On essaye de les freiner, mais à chaque fois, on est quand même obligé de négocier parce que, voilà, on risque d'être complètement étranglé. Donc, comment on peut s'armer, l'Union européenne peut s'armer face à cette menace-là?
Alors, l'Union européenne, d'abord, elle doit prendre conscience de sa puissance. Pardon de le dire comme première étape, mais vous n'êtes pas fort dans le monde si vous n'êtes pas conscient de vos forces. Donc d'abord, l'Union européenne, c'est un marché de 450 millions de personnes. C'est une épargne privée qui est plus importante que nos amis américains. C'est un pouvoir d'achat, c'est de la qualité, c'est de l'innovation, c'est de la recherche et développement.
Mais c'est votre
pays.
On
veut pas... Bien sûr qu'on a ce défi de gouvernance. C'est le principe de l'Union européenne. Mais si on était seul comme pays, vous croyez qu'on ferait mieux? Bien sûr qu'on a besoin d'une Europe en ce moment, plus que jamais. En revanche, il faut que l'Europe elle soit fière d'elle et surtout qu'elle connaisse ses forces. Et donc vis-à-vis de la Chine, pour répondre à votre question, pardon, mais on doit continuer à commercer avec la Chine, c'est un marché très important. On doit investir ensemble aussi avec des entreprises chinoises, c'est absolument pas interdit de le faire. Par contre, on doit se protéger de finalement ce qui devient le plus grand risque de la politique de Donald Trump, qui sont les surcapacités venues de Chine. Vis-à-vis du marché européen, parce que eux-mêmes, dans la guerre commerciale qu'ils mènent avec Donald Trump, cherchent d'autres pays dans lesquels exporter. Mmh. Et ils cherchent notamment les pays européens. Et donc, il va falloir qu'on se protège. Dit autrement, pour résumer, François Fressoz, l'Europe, elle réussira cette période inédite dans laquelle nous vivons de redéfinition du commerce international, si elle est sûre de ses forces, si elle sait négocier, si elle sait se protéger.
Et si elle reste unie.
Si elle sait se protéger, si elle reste unie, vous avez raison. Et si elle sait enfin, et là aussi c'était l'objet de mon déplacement en Amérique latine, diversifier ses partenariats. Il n'y a pas que les États-Unis, la Chine dans le monde. Vous avez des poches de croissance en Asie du Sud-Est, dans l'Indo-Pacifique, en Amérique latine, en Afrique, dans les pays du Golfe. Faisons des accords commerciaux dans ces zones-là, accélérons justement nos exportations. Et moi je vous fais un pari. C'est que courant 2026, ou même dès la fin 2025, si vous faites la somme de tout ce que nous allons permettre avec des accords de libre-échange à nos exportateurs de fer versus ce que Donald Trump va imposer en droit de douane, l'Europe ressortira gagnante de cette période-là.
Est-ce qu'elle peut sortir gagnante, l'Europe, avec...
réveiller l'Europe dans cette période que Donald Trump a imposée pour ressortir plus fort dans nos capacités d'exportation ailleurs.
Est-ce qu'elle peut sortir gagnante, vu la situation aujourd'hui politique dans laquelle se trouve la présidente de la Commission européenne? Je rappelle que cette semaine, la semaine qui vient là, elle va devoir affronter une motion de censure au sein du Parlement européen. Donc on a une patronne de la Commission européenne qui est affaiblie. Mais est-ce que ça n'affaiblit pas toute l'Union européenne?
La gouvernance, qu'elle soit européenne, française ou des autres pays, nous devons la prendre en considération, parfois comme une faiblesse, mais aussi souvent comme une force. Je répète, est-ce que la France, l'Italie, l'Allemagne, individuellement, seraient plus forts aujourd'hui si on n'avait pas eu la construction européenne? La réponse est clairement non, on serait extrêmement affaiblis. Donc au contraire, soyons fiers de ce qu'on a construit en Europe là-dessus, soutenons l'Union européenne dans sa capacité de négociation, mais ne soyons pas naïfs, imposons la défense de nos filières et imposons surtout la protection à nos frontières aussi de l'Union européenne, notamment à l'importation d'un certain nombre de produits qui sont subventionnés, je pense aux produits chinois notamment, et qui fragilisent nos industries.
Laurent Saint-Martin, le ministre en charge du commerce extérieur, est notre invité jusqu'à 13h dans Questions politiques. Je voudrais qu'on parle aussi du budget, bien sûr. Dans 9 jours désormais, le Premier ministre François Bayrou devrait présenter ses mesures pour atteindre 40 milliards d'euros d'économies. Je rappelle que dans le précédent gouvernement, vous avez été ministre du budget. Et je vous propose, pour commencer, de réentendre le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, qui a remis cette semaine un petit coup de pression chez nos confrères de France 2.
Comment voulez-vous qu'un pays comme le nôtre, un grand pays, puisse financer les défis de demain, la transition écologique, la défense, l'innovation, la recherche, tout ce qui nous permettrait et tout ce qui est nécessaire pour rester dans la course mondiale? Comment peut-on le faire quand on est aussi endetté?
Laurent Saint-Martin, alors on va parler des dépenses publiques qu'il faut réduire, mais d'abord, les 40 milliards d'euros d'économies qui nous intéressent tous aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Tous les meilleurs économistes, Philippe Aguillon, Jean Pisani-Ferry, nous ont expliqué que 40 milliards, c'est pas possible. C'est excessif, on n'y arrivera jamais. Sincèrement, je vous pose à vous la question, vous qui avez été ministre du budget, c'est réalisable ou pas ?
Oui, c'est réalisable, mais pour ça, il va falloir travailler avec des oppositions qui comprennent vraiment l'enjeu du redressement des finances publiques. Le redressement des finances publiques, c'est pas une idéologie. C'est une nécessité pour que l'on puisse, comme l'a très bien dit d'ailleurs Pierre Moscovici, investir, continuer à investir dans notre pays. On a protégé nos entreprises, nos emplois, nos collectivités territoriales pendant des années de crise. Pendant le Covid, pendant la guerre en Ukraine et la flambée de l'énergie, on a fait le choix de protéger. Ça a eu un coût. Ça a fait monter la dette publique. Et ça nous a mis dans une situation où nous devons rembourser les taux d'intérêt de notre dette à hauteur, aujourd'hui, presque de 80 milliards d'euros. C'est énorme.
Mais concrètement, qu'est-ce qu'on risque ?
Ce que je veux juste dire dans le contexte, c'est que si on ne fait pas ce choix important de réduction des dépenses publiques dans notre pays, alors nous devrons continuer à emprunter de plus en plus, et c'est un cercle vicieux qui s'engage, puisque ce qu'on appelle le service de la dette, ces taux d'intérêt, c'est autant d'argent qui ne peut pas aller dans nos politiques publiques, dans nos services publics, ou dans l'investissement pour la recherche et l'innovation, pour reprendre les termes du premier président de la Cour des comptes. Donc, assainir ses comptes, c'est tout simplement ce qu'a fait l'Italie, ce qu'a fait l'Espagne, ce qu'a fait le Portugal. Ce sont des obligations morales, mais aussi politiques, pour pouvoir continuer à investir.
Donc 40 milliards, c'est possible.
Oui, c'est possible.
Et sans augmenter les impôts.
Mais ce qui a marché dans notre pays, ce qui a fait qu'on a remis de l'investissement dans notre pays, ce qui fait que le pays est le plus attractif d'Europe depuis maintenant 6 ans, c'est aussi parce qu'on a su baisser les impôts et avoir enfin une fiscalité stable et attractive.
Mais vous êtes pas nombreux à dire que c'est possible. Yael Braun-Pivet, la patronne de l'Assemblée nationale, elle dit que c'est pas possible. François Bayrou lui-même, cette semaine, était extrêmement ambigu sur cette éventuelle hausse d'impôts. Hein.
Écoutez, moi,
il parlait d'une mobilisation de tous les Français et ne s'interdit aucun moyen. Ça dit quand même un petit peu que tout le monde va y passer.
Écoutez, moi, il y a un peu moins d'un an, j'ai présenté à l'Assemblée nationale et au Sénat un budget qui faisait 40 milliards d'euros d'économies. Pas de hausse d'impôts, de baisse de dépenses. Donc je le sais que c'est possible, puisque j'ai présenté cette copie-là. Il se trouve qu'elle a été censurée. C'est pour ça que je pose la question de la responsabilité collective. Je pose la question de la responsabilité collective. On peut mettre le sujet du redressement des finances publiques sous le tapis. C'est la partie la plus facile. Moi, ce que je trouve très courageux et très ambitieux dans la politique du Premier ministre, c'est que ce sujet-là, et depuis longtemps, il le met comme un sujet prioritaire. Parce qu'assainir ses comptes, c'est tout simplement avoir un pays qui ne s'abandonne pas et un pays qui continue à investir dans l'avenir.
Vous ne dites pas de hausse d'impôts. Vous vous dites, on peut faire 40 milliards sans une hausse d'impôts pour un
Les experts se trompent, quoi.
C'est pas une question de se tromper ou pas, ce sont des choix politiques. Peut-être que certains considèrent que 40 milliards d'euros d'économie, c'est trop pour une première année. Mais ce que je vous dis, moi, c'est que si on veut revenir à des standards 3% de déficit public à horizon 2029-2030, si on ne fait pas ces efforts-là maintenant, ça n'existera jamais.
C'est 100 milliards d'économies sur 3 ans à trouver, en fait.
Oui, mais il faut que... Pardon, mais de revenir toujours à l'épure, mais il faut que les Français, l'ensemble de leurs représentants, entendent bien que si nous voulons protéger notre pays dans les prochaines crises, qu'est-ce qu'on fait s'il y a une nouvelle pandémie demain ? Qu'est-ce qu'on fait si on doit remettre le pays à l'arrêt ? Vous savez qu'aujourd'hui, on ne sait pas forcément remettre le même niveau d'activité partielle qu'on l'a fait en 2020. Est-ce qu'on veut continuer à protéger notre pays ? Si oui, pendant qu'il n'y a pas de crise majeure, comme c'est le cas aujourd'hui, il y a une crise internationale, bien sûr, mais il n'y a pas de crise concernant aujourd'hui nos activités en propre, il faut savoir assainir ses comptes. Donc il faut dépenser moins. Et pardon, mais c'est vrai de l'État, mais c'est surtout beaucoup vrai sur notre modèle de protection sociale qui aujourd'hui coûte trop cher par rapport aux recettes qui sont engrangées et des collectivités territoriales. C'est l'affaire de tous.
Il faut s'attaquer à la santé, c'est ça, au ministère de la Santé ?
C'est pas une question de s'attaquer à la santé, c'est une question de modèle de protection sociale qui aujourd'hui n'est pas financé de façon pérenne.
Non mais concrètement, pour les gens, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut réduire le montant des remboursements des médicaments, par exemple ? Ça veut dire qu'il faut réduire le montant des remboursements quand on utilise un moyen de transport sanitaire ? Ça veut dire quoi ?
Je ne suis plus ministre du budget et encore moins Premier ministre. Donc le Premier ministre présentera la copie du gouvernement à la mi-juillet. Ce que je dois vous dire, c'est que tout le monde doit faire un effort. Il n'y a pas 40 milliards d'euros d'économies sans effort.
Ça veut dire quoi, cette formule ? Tout le monde l'a dit. Ça veut dire quoi ? Il y a quoi ? Ça veut dire les plus modestes, les entreprises, les plus riches ?
Tout le monde.
C'est qui ?
Ça veut dire tout le monde. Ça veut dire que s'il n'y a pas...
Donc ça veut dire aux impôts.
Non, mais il n'y a pas que là.
Si, on ne va pas tourner autour du pot. Il y a un moment, ça, concrètement, pour des Français...
Pourquoi vous voulez toujours augmenter les impôts? C'est quoi ce virus de l'impôt permanent qu'on a dans notre pays? Faire des efforts, c'est peut-être aussi avoir un État, des collectivités territoriales, un système de protection qui dépense moins ou mieux, peut-être, non? C'est pas interdit aussi de considérer que l'État a su protéger son pays, mais n'a pas su freiner sa dépense pendant ces dernières années et ces dernières décennies. On peut aussi considérer que c'est plus intelligent de savoir freiner la dépense qu'augmenter systématiquement les impôts.
Mais ça veut dire
moi, ça restera toujours mon école de
donc
pensée.
Donc ça veut dire qu'il faut revoir la réforme sur les retraites, en fait. C'est ça que j'entends dans ce que vous êtes
vous avez dit. Vous avez dit qu'elle n'est pas durablement réglée, donc...
Ah mais c'est sûr. Mais regardez les chiffres, c'est pas moi qui le dis. Regardez le corps, regardez tous ceux qui... regardez la Cour des comptes aussi. Regardez les déficits devant nous de notre régime de retraite. Est-ce qu'on veut, oui ou non, avoir un régime de retraite qui se finance dans la durée? Aujourd'hui, c'est pas le cas.
Donc vous dites 65, 66, 67 ans?
Mais je dis que ce sera probablement un débat, non pas du PLF de 2026 ou du PLFSS 2026, mais probablement de l'élection présidentielle qui sera clé, parce que financer notre modèle de protection sociale, c'est le sauvegarder. Aujourd'hui, il n'est pas durablement financé, donc il n'est pas sauvegardable. Et donc, il y a un moment, il faut aussi se poser des questions courageuses. Est-ce que l'on veut continuer à avoir un modèle de protection inédit dans le monde, qui est notre État-providence? Si la réponse est oui, il faut avoir des mesures courageuses en face et savoir équilibrer ses finances.
Françoise.
Ça fait depuis janvier que le Premier ministre, la Cour des comptes et tout ce qui compte d'autorité économique alertent sur l'état des déficits. Et on a l'impression que ça passera pas ou que ça va avoir un mal fou à passer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on est à un tel blocage? Est-ce que c'est...
Il vous a pas échappé,
est-ce que c'est le milieu politique ou est-ce que c'est les Français qui sont viscéralement attachés à leur modèle social et qui ne veulent pas bouger?
D'abord, on peut être attaché au modèle social et vouloir l'équilibrer.
Bah ça, c'est mon cas. Entend, c'est vous.
C'est voilà. Mon cas. Et je crois que beaucoup de Français partagent cela. En revanche, il ne vous a pas échappé que nous sommes dans une configuration politique de majorité relative et que quand toutes les oppositions se réunissent ensemble par une alliance de la carpe et du lapin pour faire tomber des gouvernements parce que le budget... justement, est courageux, alors effectivement, vous avez une fragilité structurelle qui n'existe pas quand vous êtes en majorité absolue. Donc nous avons besoin de convaincre des oppositions de la nécessité de faire ces efforts-là. Et c'est ce que fait en ce moment la ministre des Comptes Publics, Amélie de Montchalin. Elle travaille avec les groupes d'opposition et elle le fait avec beaucoup de pugnacité et beaucoup de courage parce qu'on a besoin justement d'aller chercher la conviction de ces partis d'opposition qui ne doivent pas censurer le gouvernement. Et je dis pas ça pour... que ce soit notre gouvernement qui reste. C'est pas ça qui est important pour les Français. Mais qu'est-ce qu'on gagne à censurer? Qu'est-ce qu'on gagne à empêcher un budget? Qu'est-ce qu'on a gagné collectivement, à part perdre 12 milliards d'euros lors de la censure du budget de 2025? Et ça, les Français le savent.
Il y a des lignes rouges qui sont difficiles à franchir. Cette semaine, par exemple, on a eu comme ballon d'essai raboter les déductions fiscales quand les Français font des dons. Quand on fait ce choix-là, on arrive à sympathiser et à se mettre d'accord avec quel type d'opposition? Toujours la même, celle dont on parlait au début de l'émission, les Républicains.
Non mais d'abord, avec la gauche, les Républicains ne sont pas dans l'opposition, compliqué. On est dans la même coalition gouvernementale.
Et pour l'instant.
On est dans la même coalition gouvernementale et on est dans le socle commun à l'Assemblée nationale. Donc il n'y a pas de question de savoir est-ce qu'ils sont dans la majorité ou pas. Ils sont dans la majorité. La question, c'est effectivement de savoir quels sont les bons choix politiques. Bon, vous me prenez cet exemple effectivement de l'avantage fiscal. Je pense que c'est un très mauvais choix de revenir sur cet avantage fiscal parce que justement nous avons besoin d'encourager à la solidarité entre les Français. Mais il y a plein d'autres sujets sur lesquels nous pouvons faire évidemment des économies. Ce que je dis juste, c'est que la question des niches fiscales, la question des opérateurs d'État, tout ce qui revient régulièrement dans les papiers de vos confrères, ce sont des questions importantes. Mais à la fin...
Mais les opérateurs d'État, c'est une bonne idée ou pas? Parce que Amélie de Montchalin...
Oui, c'est une bonne idée éventuellement, mais ce que je vous dis juste, c'est que c'est l'épaisseur du trait.
350 millions d'après le rapport ou 500, de la commission d'enquête du Sénat.
De quoi parle-t-on? On a besoin de faire 40 milliards d'euros d'économies. Voilà. Si dans la durée vous voulez faire cet effort-là, 100 milliards, vous l'avez dit, sur 3 ans, si vous voulez faire ça dans la durée, c'est par la protection sociale et par le meilleur équilibre de la protection sociale que ça se passera. On peut se faire plaisir, raconter que c'est parce que telle agence du bio ou des déchets ou je ne sais quoi va perdre 10% de sa masse salariale qu'on va résoudre le problème budgétaire français, c'est faux. Voilà, c'est faux. Moi, je suis pas là pour raconter des cracks. Je suis là pour dire que ce qui déséquilibre nos finances publiques, ce qui fait qu'on a un déficit public plus important que nos voisins, c'est le déséquilibre de notre modèle social. Après, est-ce qu'on est prêt à prendre des décisions courageuses pour le gouvernement? La réponse est oui. Pour les oppositions, je ne sais pas encore.
Vous parlez de budget courageux. Est-ce que vous vous dites, aujourd'hui, puisque vous avez votre franc-parler, ça va être, un budget d'austérité. Et est-ce que l'année blanche est une piste, c'est-à-dire le gel des dépenses?
Budget d'austérité, non. Clairement pas, c'est pas ça un budget d'austérité. Il y a malheureusement des pays qui ont connu des budgets d'austérité, mais ce sont des tutelles qui leur ont imposé. Et je ne voudrais pas que ce soit un jour le cas pour la France. Donc c'est un budget de sérieux qui sera proposé. Ce n'est pas un budget d'austérité. Je récuse totalement ce terme-là. L'année blanche est une piste sur la table comme les autres. Elle a le mérite effectivement de freiner et de refroidir la dépense publique, indéniablement.
Même si c'est un projet minimaliste, hein, parce qu'on ne fait pas avec une année blanche 40 milliards d'euros de.
Absolument, on ne fait ni 40 milliards et puis c'est one shot, quoi. C'est une année sur laquelle vous faites cela, et donc ça ne résout pas durablement, encore une fois, l'équilibre de nos finances.
Voilà, on ne va pas faire passer au crible toutes les mesures qui sont envisageables, surtout qu'on a bien compris que vous n'aviez pas les mesures que François Bayrou allait présenter le 15 juillet
si avais,
et qu'on attend avec impatience. Je voudrais juste pour finir qu'on entende le président Macron, il était hier après-midi au Cirque d'Hiver avec les jeunes En Marche, puisque c'est désormais comme ça qu'il s'appelle.
Les deux ans qui viennent, chaque jour, pour dans deux ans. Mais j'ai aussi besoin de vous pour dans deux ans, pour dans cinq ans, pour dans dix ans, parce que vous serez là et parce que comptez sur moi, je serai là avec vous. Et ensemble, on ne lâchera rien, rien, rien.
Je vous regarde, je vous vois légèrement sourire. C'est quoi, vous retrouvez les inflexions?
Ça me rappelle 2016 et les meetings extrêmement galvanisants du début de l'aventure En Marche.
Mais ça veut dire quoi, ça, justement, que ça vous rappelle ça? Il a 2032 en tête, Emmanuel Macron?
En tout cas, il a beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées, et nous verrons bien ce que l'avenir réserve à notre pays. Ce qui est sûr, et ce dont je suis certain, et c'est pas de la langue de bois, c'est que si on s'amuse maintenant, au milieu de l'année 2025, à se demander ce qui se passera en 2032, vous êtes sûr que vous ne prenez pas les décisions qu'il faut pour nos concitoyens?
Ah oui, mais c'est lui qui alimente,
là. Ah oui, d'accord.
Merci, Françoise.
Mais un petit air de
il alimente carrément. On a l'impression que c'était déjà un meeting politique.
Moi, je trouve que c'est très bien comme alimentation. Mais ce que
c'est
je
un peu contradictoire,
aussi,
alors.
C'est que, comme membre du gouvernement, on a besoin quand même d'être à la tâche, là, dès cette rentrée.
Voilà.
On a beaucoup, beaucoup de sujets budgétaires qu'on a cités juste avant. Et ni 2027, ni 2032, aujourd'hui, ne changent la vie des gens. Donc, on est au travail.
Mais entre la situation politique qu'on racontait là aujourd'hui, on est encore qu'en 2025, et puis 2027, la prochaine présidentielle, il se passe quoi? On tient comment? On parlait de censure, est-ce qu'il va falloir une nouvelle dissolution? Comment on remet de l'ordre dans tout ça?
On tient avec de la responsabilité collective. Pardon, hein, c'est peut-être un terme
tarte
à la crème pour vous.
Mais il y en a aujourd'hui dans la classe politique, sur les bancs de l'Assemblée nationale, vous y croyez? C'est pas un peu candide de votre part de parier là-dessus?
Alors d'abord, je crois que c'est jamais candide de croire que les parlementaires et les députés en particulier sont responsables. Je pense que c'est tout simplement croire dans la démocratie représentative. Je pense que l'épisode de la censure du dernier budget a marqué les esprits, a fait prendre conscience que ça n'apportait rien à nos concitoyens, mais que ça leur coûtait de l'argent public, et que nous avons beaucoup plus intérêt à faire évoluer les budgets, pour le coup, avec les intérêts des oppositions. Ça, oui, ça s'appelle du compromis, ça s'appelle une culture de la coalition élargie, qui manque en France, hein, je vous l'accorde. Hein, le compromis à la française n'est pas encore tout à fait stabilisé. Donc, on a besoin de continuer à travailler, je le répète, c'est ce que fait le Premier ministre, c'est ce que fait Éric Lombard, c'est ce que fait Amélie de Montchalin au nom de l'ensemble du gouvernement. Mais on a besoin de continuer à construire ensemble là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait pendant deux ans? Eh ben, on redresse nos comptes, oui, c'est effectivement un préalable, et on continue à protéger et à se battre pour améliorer la vie des Français. Il y a plusieurs projets de loi, plusieurs propositions de loi qui seront évidemment examinées, débattues, promulguées d'ici la fin du mandat. Enfin, deux ans, c'est très long.
Et pendant ce temps, je vous rassure,
il y aura bien, petit à petit, une montée en puissance des appétits pour la campagne présidentielle que vous pourrez commenter.
Ils ont déjà commencé les appétits, là. Mais on peut tenir jusqu'au printemps 2027, comme ça?
Mais bien sûr, il le faut, parce que je ne crois pas qu'une dissolution permette aujourd'hui une meilleure clarification du paysage de l'Assemblée nationale. Et la Constitution est ainsi faite, et donc nous avons aujourd'hui une capacité de travail. Le pays n'est pas bloqué. Moi, je ne veux pas laisser entendre ça. Le pays n'est pas bloqué. Par contre, on a besoin de davantage négocier, de davantage aller chercher des compromis avec les oppositions. Et moi, je vous dis, après 2027, on sortira peut-être grandi de cette période-là avec une capacité justement à mieux travailler avec les oppositions.
Vous dites que c'est pas le temps de la clarification, enfin, ça permettrait pas. Si de nouveaux députés RN rentrent en force, mettre Jordan Bardella à Matignon, bah, ça aurait le mérite au moins de clarifier les choses.
D'abord, je ne sais pas si ça arriverait, je ne le crois pas. Et par ailleurs, ce n'est pas le dessin que je souhaite à mon pays. Donc je pense que nous avons beaucoup à construire pendant les deux prochaines années avec cette majorité relative qui, effectivement, nous met au défi régulièrement, mais qui n'empêche pas de passer un certain nombre de textes de loi et un budget si, effectivement, les oppositions comprennent l'importance aujourd'hui d'avoir un budget responsable.
Merci, Laurent Saint-Martin.
C'est moi qui vous remercie.
Vous restez avec nous, l'émission n'est absolument pas terminée. Il est temps d'accueillir notre second invité pour le livre de la semaine.
France Inter. Question politique. Karine Bécart.
Bonjour Dorian Dreuil.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de Questions politiques. Alors vous ne venez pas forcément pour nous présenter un livre à lire sur les plages cet été, mais à 9 mois des élections municipales, parce que nous sommes à 9 mois déjà de ce prochain scrutin. Vous signez, vous, comme une autre experte associée à la Fondation Jean Jaurès, puisque vous l'êtes également, une autre associée, Marinette Vallière. Vous êtes tous les deux donc à signer un essai intéressant sur ces nouveaux outils dont on aurait bien besoin pour aider notre démocratie, pour la revivifier un peu. Le titre de cet ouvrage, « Les villes, nouvelles fabriques démocratiques », avec un point d'interrogation, et ça vient d'être publié aux éditions de l'Aube. D'abord, Dorian Dreuil, comment se porte notre démocratie locale aujourd'hui, puisqu'il est essentiellement question de cette démocratie-là dans votre ouvrage?
Tout à fait, c'est un ouvrage qui s'est construit autour de trois signaux faibles qui deviennent des signaux forts, visibles à la fois dans l'actualité mais aussi dans l'opinion. D'abord un sentiment qui court dans la société, qui est celui de qu'on pourrait qualifier de démo-anxiété, c'est-à-dire de sentiment de défiance, de méfiance généralisée vis-à-vis des institutions politiques et démocratiques à l'échelle nationale, vis-à-vis des élus également, et le sentiment que sondage après sondage, et on l'a vu d'ailleurs dans le dernier rapport du CEVIPOF de février 2025, que la démocratie ne fonctionne pas bien ou ne fonctionne pas comme elle devrait l'être. Et quand on regarde dans les différentes enquêtes d'opinion, le maire, l'élu local, et celui qui est encore celui qui est préféré par les citoyens.
De moins en moins, mais il reste le préféré.
Il reste la figure préférée. Et le troisième symptôme qu'on observe, c'est une difficulté pour les élus locaux à exercer leur mandat. On va arriver à la fin d'un mandat municipal où on aura eu un record du nombre de démissions de maires, mais aussi de conseillers municipaux, qui nous amène à se questionner sur la question d'une crise des vocations, mais derrière le potentiel crash démocratique vers lequel on va sur ces élections municipales. Et cet enjeu-là, il est couplé avec un autre enjeu qui est que c'est à l'échelle locale, à l'échelle municipale, que la démocratie est née. Hein, c'est cité athénienne, voilà, mais c'est aussi à l'échelle locale que la démocratie s'est toujours réinventée. On pourrait par exemple citer les budgets participatifs à Porto Alegre en 89. Et donc on fait le pari de se dire que 2026, il y aura ce double croisement de d'abord un enjeu de renouveau démocratique, une volonté de nouvelles pratiques démocratiques dans la société, et que c'est aussi à ce moment-là qu'on peut mettre dans le débat public la question de nouveaux outils pour réconcilier la démocratie représentative avec la participation citoyenne et aussi avec la démocratie plus délibérative.
Je rebondis sur ce que vous disiez, on en parle beaucoup dans les médias, de ces maires qui effectivement démissionnent. 2189 depuis 2020, le précédent scrutin, ça fait à peu près 400 maires, j'ai calculé, qui démissionnent chaque année. Effectivement, ça paraît beaucoup. Est-ce que vous avez des explications? Ça vient de quoi en fait? Qu'est-ce qui s'est passé particulièrement là?
Il y a une série qui s'appelle Game of Thrones, que sûrement vous avez déjà vu, dans lequel on entend souvent un conseiller du prince dire « le pouvoir réside là où les hommes et les femmes se le figurent ». Et c'est vrai que dans la société, on voit bien qu'il y a, vis-à-vis du maire et vis-à-vis de l'élu local, qui est l'élu de proximité, la volonté qu'il puisse être la solution aux difficultés du quotidien, à toutes les difficultés. Et on a vu, au fil des années, au fil des réformes, au fil de la réorganisation de nos collectivités territoriales, le maire perdre de plus en plus de pouvoir et donc de capacité à agir sur la vie au quotidien. Donc c'est une des explications parmi d'autres, aussi le fait que bien parfois ça relève de la vocation, de l'engagement quasi bénévole dans certaines petites communes, des difficultés vraiment administratives, pénales, d'incivilité aussi, et d'attente, de pression très forte sur ces élus-là. Et donc c'est tout l'objet aussi de ce Tour de France et du monde qu'on a fait des innovations démocratiques locales. C'est-à-dire que le pouvoir peut être aussi plus partagé. Et le pouvoir peut résider ailleurs que dans le bureau du maire. S'il est partagé avec le tissu associatif local, avec les citoyennes et les citoyens eux-mêmes, dans une forme de démocratie continue, une démocratie continue qui permettrait aussi d'apaiser.
Mais justement, soyez...
cet enjeu, c'est de l'apaisement de la société.
Soyez plus concret, parce que vous avez effectivement fait un vrai tour de France et un vrai tour du monde, et vous avez découvert des nouveaux outils. Quels sont ces nouveaux outils intéressants qui pourraient revivifier, comme je le disais, la démocratie locale?
Vous avez, par exemple, à Poitiers, une assemblée citoyenne qui, tout au long de l'année, travaille avec des citoyens tirés au sort à construire des propositions qui vont porter sur un sujet, un enjeu précis, qui sera soumis après au conseil municipal, qui pourra délibérer. Vous avez aussi beaucoup de conventions citoyennes locales qui fonctionnent, où on observe de la traduction politique dans les mesures des conseils municipaux. Où vous avez à l'étranger même des commissions délibératives. C'est le cas par exemple de Bruxelles, la ville de Bruxelles, qui a créé une commission délibérative mixte avec la particularité de mêler sur des sujets très précis des citoyens tirés au sort et des élus du Parlement francophone bruxellois qui co-construisent, qui travaillent à des solutions concrètes. Il y a comme ça, c'est un peu la métaphore du philosophe John Dewey qui disait quand on a mal aux pieds, tout le monde sait quel endroit de la chaussure est abîmé. Il y a le cordonnier qui, lui, a l'expertise technique pour la réparer. Et finalement, c'est de là qu'il faut mettre ensemble le citoyen et l'élu pour réconcilier toutes les formes de vitalité démocratique. C'est-à-dire qu'on a longtemps considéré que démocratie représentative était excluante de la démocratie plus participative ou plus délibérative. Nous, on fait plutôt le pari de dire une démocratie du continu au quotidien doit mêler à la fois des outils du vote, du tirage au sort, de l'élection et de la participation.
Alors, une question de Françoise, et puis j'aimerais me tourner après vers notre invité Laurent Saint-Martin.
Françoise. Beaucoup de maires disent on a beaucoup développé la démocratie participative, mais finalement, quand on regarde les assemblées, c'est toujours un peu les mêmes, les retraités. Voilà. Comment vous faites pour engager des citoyens actifs, des jeunes, de ceux qui veulent vraiment transformer et qui pourraient s'engager? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à inventer?
Il y a au moins deux choses. D'abord, la première, c'est garantir des règles du jeu claires et renforcer la traduction politique qu'il y a entre un moment délibératif de co-construction et la manière dont ça atterrit après en termes de nouvelles politiques publiques. Et la deuxième chose, c'est effectivement le syndrome que localement on entend qui est TLM, c'est toujours les mêmes. Et pour ça, il y a un enjeu de créer et d'imaginer un statut du citoyen participant, un statut juridique qui permette, comme dans les jurés d'assises à une époque, eh bien de lever les barrières économiques, financières ou sociales pour garantir une démocratie pour tous d'une certaine manière et enclencher des démarches, non plus seulement d'aller vers l'ensemble des publics, mais une démarche de faire avec.
Laurent Saint-Martin, vous êtes convaincu par cette démocratie locale qui pourrait essayer d'avoir d'autres outils? J'ai envie de dire, à défaut, on va perdre un petit peu en démocratie représentative. Est-ce qu'il faut donner plus au local, au participatif et perdre un petit peu au représentatif alors qu'on est dans une démocratie représentative depuis des décennies?
Non, moi je crois que augmenter la démocratie ne la divise pas. Et je pense que nous pouvons totalement rendre complémentaire plus de démocratie locale, plus de démocratie directe et de la démocratie représentative qui reste indispensable pour la délibération dans le pays. Mmh. Et l'un n'empêche pas l'autre. Il y a eu d'ailleurs des initiatives intéressantes ces dernières années, les participations, justement, les conventions citoyennes qu'il y avait eu notamment sur le climat, sur la fin de vie. Tout ça, c'est extrêmement important d'avoir diversité de points de vue. Toutes n'ont pas la même fonction délibérative, mais ça, c'est justement le principe d'une démocratie bien organisée. Mais moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, à date, c'est la vocation et c'est l'attractivité de
la
politique.
Les gens ont plus envie d'y aller, quoi.
C'est ça qui est très, très alarmant. Et là où il faut effectivement, et ces outils-là, à mon avis, sont des très, très bons leviers d'entrée dans la vie publique et dans la vie politique, c'est que donner envie à nos concitoyens de servir les autres, c'est quand même ça le béaba de l'engagement politique, et c'est ça qui se perd. Et là, moi, je tire la sonnette d'alarme parce que ce que ce sera dans 10, 20, 30 ans, si on continue sur cette pente de perte d'attractivité des métiers,
et là, les outils
de la représentation,
parler, ça suffit, ou
c'est
pas
effectivement quelque chose d'inquiétant.
Suffisent ces outils-là ou pas?
Je sais pas dire s'ils suffisent, mais je pense qu'ils augmentent. Et je pense que c'est effectivement quelque chose de tout à fait favorable. Vous voyez, moi, je trouve que quand il y a des budgets participatifs dans les communes, eh bien, les habitants, les administrés s'en saisissent, ils apprécient la notion de donner son avis, de voter et de participer de la manière la plus proche. Et ça va de pair avec parfois parfois une démocratie qui apparaît plus lointaine, mm-hmm. qui est celle des parlements et celle des ministères.
Merci à tous les deux. Merci Dorian Dreuil. Je rappelle le titre de votre ouvrage que vous avez coécrit, je le redis, avec Marinette Valliergue, pardonnez-moi, Les villes, nouvelles fabriques démocratiques, c'est à retrouver aux éditions de l'Aube. Merci beaucoup Laurent Saint-Martin d'être venu clore cette 9e saison de Questions politiques. C'est un peu plus qu'une fin de saison pour moi, puisque j'ai décidé de retourner dans ma Bourgogne et de devenir vigneronne. Merci de nous avoir suivis pendant ces 9 années. Merci d'être resté à nos côtés. Avec Amaury Baucher, on a cherché chaque semaine les meilleurs invités dans le respect du pluralisme, en tout cas, parce que c'est important pour notre démocratie, justement. C'est important aussi pour le service public. Merci aussi à Fabienne Lemoyle pour son exigence, sa capacité à avoir toujours un coup d'avance. Merci à toutes les équipes techniques. Voilà, j'étais sûre, j'allais pleurer. Et merci à tous les journalistes avec lesquels j'ai beaucoup aimé travailler. Belle journée et très bel été.